Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Alors c'est un épisode très spécial aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que je souhaitais vous proposer un épisode particulier pour les fêtes de fin d'année, en me focalisant sur les produits phares de cette période. Et la seconde, c'est que pour échanger avec moi aujourd'hui, je suis accompagnée non pas d'un, mais de deux invités. Alors parmi tous les plats qui jonchent nos tables de fête, il a fallu faire un choix. Ou plutôt deux, car un deuxième épisode sur cette même thématique, mais dédié à un produit salé, arrivera très vite. Aujourd'hui, nous allons parler sucré, gourmandise, souvenirs d'enfance, avec deux grands pâtissiers, chacun expert dans leur domaine. L'un nous parlera de la fameuse bûche, le dessert de Noël par excellence, et l'autre nous parlera du panettone, un dessert traditionnel un peu oublié qui fait son grand retour ces dernières années. Pour parler de tout ça avec moi, je suis en compagnie de Christophe Louis, pâtissier boulanger qui a fait du panettone sa spécialité, et Benoît Castel, pâtissier boulanger également, qui propose chaque année de superbes bûches de Noël. Bonjour Christophe et bonjour Benoît.
Bonjour Pauline.
Bonjour Pauline.
Alors je suis ravie d'enregistrer cet épisode spécial fête de fin d'année avec vous et j'ai hâte d'échanger avec vous deux, des bûches et du panettone, qui, comme les cadeaux on peut le dire, participent à la magie de Noël. Alors on va commencer par une petite présentation de chacun de vous deux, en mentionnant notamment vos parcours et vos métiers. On commence par toi Benoît, est-ce que tu peux te présenter en deux mots et avec tes mots ?
Alors, donc Benoît Castel, donc je suis pâtissier chocolatier de formation, apprentissage en Bretagne, je suis breton, je suis monté à la capitale après l'apprentissage pour travailler dans des belles maisons parisiennes, comme avec Jean-Claude Vergne à la pâtisserie de l'église, et puis après j'ai pris des postes de chef comme chef pâtissier chez Hélène Darroze, après j'ai travaillé pour Jean-Louis Coste, pour les hôtels, l'hôtel Coste en l'occurrence, puis après chef pâtissier à la Grande Épicerie où j'ai rencontré Christophe d'ailleurs puisqu'on a travaillé ensemble à la Grande Épicerie pendant presque 9 ans.
Donc, voilà le lien.
Voilà le lien. Et puis après j'ai ouvert mes premières boutiques, je me suis lancé dans la pâtisserie-boulangerie, donc après la Grande Épicerie, donc je suis parti ouvrir une pâtisserie-boulangerie qui s'appelait à l'époque Joséphine Bécry. Puis après, j'ai ouvert les boulangeries Liberté. J'avais lancé donc les boulangeries Liberté. Et puis après, j'ai ouvert donc des pâtisseries boulangeries donc sous mon nom, donc Benoît Castel, Ménilmontant, donc la rue Sorbier, le 11e, et récemment donc l'ouverture aussi d'une alimentation épicerie.
Voilà une présentation bien riche. Christophe, même exercice, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ?
Oui, alors, enchanté. Je suis Christophe Louis, donc pâtissier à Paris. Je suis installé dans le Marais récemment. J'ai une expérience de pâtissier, boutique et restauration plutôt parisienne. Mm-hmm. J'ai effectivement rencontré Benoît à la Grande Épicerie. On est resté 9 ans ensemble, comme il vient de le dire. Riche expérience et à un moment donné, j'ai fait la rencontre de la fermentation du pain. Et d'accord. Du panettone. Puis je me suis émancipé là-dedans depuis quelques années.
Donc tu as fait une formation boulangerie en supplément de ta formation pâtisserie.
C'est ça, moi j'ai fait la rencontre donc de Thierry Delabre et Thomas Teffry-Chambellan pour le pain là où ça a été un peu révélateur pour moi.
OK. Merci Christophe, merci Benoît. J'ai une petite question rituelle que je pose à tous mes invités dans Culture Bouffe, alors je l'ai un petit peu adaptée à notre épisode. Je voudrais savoir pour vous ce que représentent les gâteaux de fête. Quand vous pensez bûche ou panettone, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? Qui veut commencer ?
Gâteau de fête, oui, bien évidemment, il y a tous les marronniers de l'année. Hein, dans la pâtisserie, on a quand même bon nombre de gâteaux tout au long de l'année. Mais c'est vrai que la bûche, pour moi, elle fait partie quand même des événements de l'année qui sont importants. J'ai envie de dire deux gâteaux, la bûche et la galette. Ouais. Ça se suit, Mais la galette, c'est aussi un fort moment de l'année.
C'est vrai, c'est vrai. Et pour toi, Christophe ?
Ouais, c'est la magie, en fin de compte, de tout ce que ça peut représenter autour des fêtes et tout ça. Puis j'aime bien ce moment en production parce que c'est un moment assez intense. Et généralement, on est tous soudés, on fait beaucoup d'heures, mais et on sort de beaux produits, quoi. C'est un moment de la production qui est...
C'est un peu pour la bonne cause, on est ouais. Tous motivés, quoi. Ouais. Alors, on va rentrer dans le podcast et j'aimerais qu'on commence cet épisode en parlant un peu d'histoire et de tradition. Donc, je vais peut-être vous poser une colle, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait mes petites recherches. Benoît, est-ce que tu connais l'histoire de la bûche de Noël ?
Alors, moi aussi, Pauline, j'ai fait mes petites recherches.
Super.
Bon, j'avais plus ou moins ça en tête. Après, j'ai regardé un peu, mais je ne sais pas si on a les mêmes sources.
Bon, on va vérifier ça.
Mais selon, déjà, enfin... Il semblerait que c'était pour, à la base, fêter la fin du solstice d'hiver.
Jusque-là, on est d'accord.
On est d'accord. Ouais. Donc, on brûlait de la bûche. Et puis après, c'est devenu un rite, en fait, où chaque personne amenait sa bûche à la fin de l'année. Et voilà, de la bûche en bois, on est passé à la bûche à déguster. Et c'est... et voilà.
C'est ça, exactement. Alors moi, je vais rajouter quelques petites informations. Effectivement, on brûlait donc une énorme bûche parce qu'elle devait se consumer idéalement pendant 12 jours. Donc
ah
on
oui,
parlait vraiment
ça,
de
oui.
Très très grandes cheminées qui ont un petit peu disparu avec le temps, avec le développement de la vie citadine. Et puis, il y avait un vrai rite autour de ça, une vraie tradition, parce que le choix de l'arbre, par exemple, si on choisissait un arbre fruitier, c'était signe d'abondance pour la récolte prochaine. On arrosait aussi la bûche avec de l'huile d'olive, du vin ou du miel en fonction des croyances de chacun. Et donc finalement, ça a commencé à disparaître voilà, avec la disparition des très grandes cheminées. Et c'est au 19e siècle qu'on a vu apparaître les premiers gâteaux en forme de bûche de bois. Mais c'était effectivement lié à cette tradition de la bûche, enfin le morceau de bois à la base. Et c'est finalement après la Seconde Guerre mondiale que la tradition de servir un gâteau en forme de bûche à Noël s'est vraiment développée en France. Donc c'est finalement assez récent quand même. Et à cette époque, on cherchait vraiment à imiter la bûche de bois, alors que maintenant, bon, ça s'est un petit peu plus perdu. On a des bûches de toutes les formes et de toutes les couleurs.
Exactement, oui.
Et toi, Christophe, est-ce que tu connais l'histoire du panettone ?
Alors moi, je suis très mauvais en histoire, mais j'ai deux... Des choses dont je me souviens, c'est l'histoire de Tony, là, du gâteau loupé, où il a fallu refaire quelque chose rapidement, et
exact.
Puis de l'industrialisation, là, par Motta, du panettone, quoi, dans les grandes lignes, après les dates.
Ah ben, je vais pouvoir rajouter aussi, j'espère, parce que je peux sortir ma science aujourd'hui. donc effectivement, donc, première chose, c'est une tradition italienne, et il existe beaucoup de légendes autour de l'invention du panettone, mais celle que tu as citée, c'est celle que je m'étais notée aussi, puisque c'est la plus populaire, la plus connue. Déjà, la première chose dont on est sûr, c'est que c'est originaire de Milan, et donc l'histoire que tu racontais, Christophe, c'est en fait, ça se passe à la cour du duc de Milan au 15e siècle, et en fait, la légende raconte qu'à l'occasion d'un grand dîner de Noël, le chef a brûlé le gâteau qu'il devait servir, mais il pouvait absolument pas se permettre de ne pas servir de dessert aux convives, et donc il a décidé de servir un gâteau qui avait été réalisé la veille par un des commis pour la brigade. Et le gâteau en question avait été confectionné avec les ingrédients qu'il y avait à disposition, donc beurre, farine, œufs, fruits confits, fruits secs. Et il a été très apprécié par les convives qui ont demandé des informations sur le fameux gâteau, et le chef avoua qu'il s'agissait, entre guillemets, du panditoni, d'où le nom panettone. Voilà. Et j'ai même noté qu'au 19e siècle, donc c'était pas vraiment le panettone tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais en 1920, Angelo Motta, comme tu le disais, lui a donné la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est quand même important de le préciser, depuis 2003, un cahier des charges précis des ingrédients et du procédé de fabrication du panettone a été élaboré par des chefs pâtissiers milanais. Et ces éléments ont été repris dans un décret ministériel qui officialise les règles de production du panettone. C'est quand même pas rien. Voilà, donc on a fini pour l'histoire. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et la première question que je me pose, c'est comment s'articule la production d'un dessert dont la demande s'étale seulement sur quelques jours dans l'année ? Comment vous vous organisez ? Et notamment, par exemple, Christophe, combien vous produisez de panettone chaque année au moment des fêtes ?
Alors là, nous, plutôt de parler en jours.
Ouais.
Ici, grosso modo, on peut faire 80 panettone par jour.
Okay.
Parce que voilà, c'est un peu petit, et puis au niveau du stockage, tout ça, ça prend trop de place. Donc, par rapport à nos chambres de fermentation, par rapport à tout ça, on est sur ces quantités-là. Après, on essaye vraiment de faire le maximum. On va recuire le lendemain, on bloque au froid, etc.
D'accord. Et est-ce que ce rythme s'accélère au moment des fêtes ou c'est toujours assez linéaire?
On va vraiment faire 80 tous les jours,
c'est
voire
le maximum
plus,
que...
voire 100.
D'accord.
On va essayer de monter à 100, mais on peut pas cuire 100 panettone le jour même. mais on va produire sans panettone.
Donc tu sens quand même un pic de vente au moment des fêtes de fin d'année sur le
marché. Oui, bien sûr.
Et toi, Benoît, combien vous produisez de bûches de Noël au moment des fêtes ?
Je vais parler un peu de toute la comment on organise surtout notre parce que c'est un moment fort pour nous Noël. Et nous, on commence à bosser sur Noël en général en mars.
Ouais, y a toujours un gros décalage.
Énorme décalage. En mars, on commence à réfléchir. Alors déjà, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je commence à me dire qu'est-ce que je fais l'année prochaine. On n'a pas encore passé,
Je comprends.
Voilà, mais je me dis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà. Et puis fin janvier, en général, on fait un débrief de ce qui s'est passé dans Noël tout de suite. Et là, on a déjà fait au moins 40% de Noël dans nos. Je réunis toutes mes équipes,
ouais.
Mes responsables de prod, tous les vendeurs, enfin tous les responsables de boutique, et on se critique sur ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien.
Pour s'améliorer l'année suivante.
Ouais, et puis alors tous les ans il manque un parfum, tout le monde demande du café, l'année d'après tu fais du café, tout te demande du marron, et puis quand on te demande du marron, voilà, ça c'est l'éternel sujet de discussion des parfums. Et puis nous on commence alors souvent je fais des collabs avec des artistes différents, j'aime bien ça, ouais. Je le fais depuis très longtemps. On avait commencé avec Christophe, quand on travaille à la grande épicerie, de faire des collabs aussi avec des gens, c'était assez riche, hein. Ça c'était très sympa. Et j'ai toujours, depuis que je me suis réinstallé, j'ai toujours fait ça. Et ça me plaît parce que je trouve que c'est déjà vachement bien pour les équipes parce que ça te sort déjà des sentiers battus puisque tu travailles avec des gens qui ne sont pas de ce métier. Tu leur donnes 2-3 codes et tu leur dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens super, hein, Mathalie Grasset. Cette année, je refais quelque chose avec Alexis Taïeb, Tirsa, qui vient de l'univers du graphisme parce qu'il fait des choses magnifiques. Il y a eu Maurizio Galante, Tal Lachman, Bishop, il y en a eu quelques-uns quand même maintenant. Et donc voilà, on commence à réfléchir à ça. Et puis, nous, en fait, il faut que Noël soit fini d'organiser, de déguster en juin.
Ok, on est juin. Encore vraiment très en avance.
Ah ouais, on est dans les modes petit bonhomme.
Avant les coups, on déguste les bûches de Noël. Quoi.
Ah, mais grave. D'ailleurs, on se marre des fois souvent quand on fait les photos pour qu'en septembre, on ait en fait tout la panoplie et qu'on commence à la fin de l'année, on veut pas avoir à réfléchir à ce qu'on va faire.
Il faut qu'on soit
en mode prod. Et voilà. Et on commence alors tout le monde va crier au loup, mais on commence à produire les bûches en général fin octobre.
Ok.
Fin octobre, puisqu'aujourd'hui, tous les pâtissiers et tous les pâtissiers boulangers, les grands, les petits, on met au congélateur, en fait, parce que sinon, c'est impossible.
Mais on se doute bien qu'on ne peut pas faire 100 ou 200 ou 300 bûches le 24 décembre.
Non, ce n'est pas possible. Donc, voilà, nous, on fait, en gros, on ne fait pas beaucoup. On fait environ 1000 bûches, un peu plus de 1000 bûches. Et voilà, donc ce qui est... mais c'est tout. Et comme dit, je rejoins dans les propos de Christophe, c'est vachement joyeux, en fait. C'est vrai, c'est vraiment... tout se passe sur la fin de l'année, il y a cette fête, il y a une effervescence dans les labos qui est toujours magique, et ça, c'est cool.
Et en boutique aussi, je trouve que ça se ressent au moment des fêtes, c'est vraiment différent.
Là, on est en plein dedans, quoi. Là, on est en train de tout préparer de partout, les chocolats, les pâtes de fruits, les pains d'épices. Donc, nous, on fait des panettones aussi. Mais ouais, c'est la grande fête.
Donc, tu disais, tu produis 1000 bûches par an pour Noël.
C'est ça, à peu près.
Ce qui représente quand même une grosse production. À peu près sur le même sujet, j'ai une petite question un peu plus business. Enfin, du moins, c'est Philibert qui a une question, donc je vais vous la jouer et vous laisser y répondre.
Salut Benoît, salut Christophe. Alors déjà, je voulais remercier et féliciter Pauline pour ce magnifique casting, parce que j'adore ce que vous faites tous les deux. J'ai une question qui est très business, forcément. Je voudrais connaître le poids de ces fameux gâteaux de Noël, de ces bûches, dans votre chiffre d'affaires annuel, pour mieux comprendre l'enjeu. Voilà. Bah écoutez, bon podcast à tous les trois. Salut.
J'ai du mal à le visualiser. La fin de l'année, c'est un moment important. Alors, nous, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas que cette corde à notre arc, puisqu'on fait beaucoup de livraisons de restaurants, ouais. Et on a une activité brunch qui est importante, une partie restauration qui est très importante. Et en fait, pendant le mois de décembre, en fait, toute cette activité-là chute. Et on va dire... Ouais, c'est sur un mois de décembre, j'ai du mal à le visualiser. J'ai du mal à le... Je n'ai jamais fait cette réflexion, par exemple, sur les bûches. Combien ça...
Surtout que tu disais que la partie galette des rois aussi comptait beaucoup, donc j'imagine ça...
J'ai envie de dire que la partie galette des rois est beaucoup plus importante.
Plus importante que les bûches.
Beaucoup plus importante.
Ok.
Le chiffre d'affaires pour nous de la galette fin de janvier est plus important que décembre.
Mais en fait, avec le recul, c'est pas si étonnant parce que je pense qu'on mange une bûche le 24 ou le 25, ouais. Alors que la galette des rois, on en mange plusieurs
fois
dans le mois de janvier.
Je sais pas ce qu'on pense, Christophe, mais en plus, à Noël, il y a des temps très forts en amont sur le mois de décembre, mais c'est vrai qu'il y a aussi des temps très faibles en fait entre le 25 et le 31.
Ouais, mais c'est vrai que même on l'avait vu à la grande épicerie, les gens ils achètent vraiment au dernier moment quoi.
Ouais,
on sortait beaucoup d'individuels, mais de plus en plus chaque année, je sais pas si vous en souvenez,
mais il y a de moins en moins de commandes.
C'était avant, c'est bizarre, les tendances ont vachement changé quand même sur les 10 dernières années quoi. C'est
mais sur le mois, je suis en train de calculer, ça fait pas Noël, ça représente au moins 40%, est-ce que je me plante pas en disant 40% du chiffre de magasin boutique. Mais il y a tellement de trucs, parce que bon, c'est que aussi qu'une journée.
Oui, oui,
après, il y a surtout tout l'avant qui est... puis les gens consomment vraiment différemment. Alors après, il y a toute la partie aussi, toute la partie e-shop, en tout cas pour nous, elle explose à ce moment-là. Alors que le reste de l'année, elle marche pas. Dès qu'il y a un marronnier, en fait, l'e-shop, ça redécolle. Ouais. Et donc là, il y a aussi beaucoup de bûches. Donc j'ai du mal à l'identifier.
En tout cas, c'est conséquent. Tu parles
c'est conséquent.
À peu près 40%. Oui, donc c'est quand même. Et pour toi, Christophe, tu as une idée?
Pour nous, c'est très fort. Alors bon, moi, j'ai un peu de mal parce que là, c'est la première année pour que j'ai une boutique. Tout le reste du business se faisait jusqu'à présent sur le site internet. Et donc, par rapport au site internet, ça représentait au moins plus de 50%, qu'on était moins à 60% sur une période allée de novembre à janvier. Mmh. Mais là, avec la boutique, je vais voir
cette année.
Un peu la surprise.
Tu nous rediras. alors, je vous propose qu'on se focalise d'abord sur les bûches et puis on reviendra sur le panettone ensuite. Christophe, évidemment, sens-toi vraiment libre de poser toutes les questions que tu veux à Benoît pour compléter mes propos. Alors ma première question, Benoît, je pense qu'on peut dire qu'il existe autant de bûches que de pâtissiers. Donc c'est un peu difficile de faire des généralités, mais je crois qu'on peut quand même catégoriser les bûches en deux familles. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour essayer de simplifier le propos. Les bûches pâtissières et les bûches glacées. Et dans les bûches pâtissières, j'ai inclus les bûches roulées à la crème au beurre et les bûches entremets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la bûche roulée à la crème au beurre, qui est quand même la bûche traditionnelle?
C'est la bûche qu'on faisait au démarrage, en fait, pas de celle que moi j'ai connue pendant longtemps, qu'on a fait notre apprentissage. Hein, Christophe, je pense que c'est ce qu'on faisait le plus.
C'est
quoi.
Ça.
Et puis, dans les années 70, il a commencé... je n'étais pas encore né, je tiens à vous le dire. Mais dans les années 70, il y a eu l'arrivée de Le Nôtre qui a commencé à faire des gâteaux. Peut-être c'est 70, peut-être 70, les bûches, non, avec les mousses.
Ah, avec les mousses.
Peut-être, non.
Ouais,
60, 70, non, Turiès, Le Nôtre.
Ouais, par là. Hein.
C'est à peu près par là.
Donc les bûches avec les mousses, c'est ce qu'on peut appeler les bûches entremets.
Voilà, les bûches entremets. Mais vraiment, la bûche traditionnelle au beurre, sucrée comme on connaît, c'était la première. Alors, il faut expliquer pourquoi aussi on faisait des bûches crème au beurre. Ouais, parce que ce qui est important, c'est qu'on a oublié. Aujourd'hui, on en fait de moins en moins. Et pourtant, c'est délicieux, sinon on est en train de rebosser dessus.
Mais la tradition revient, je trouve,
oui,
ces
dernières
années.
Oui, c'est bien. Alors, c'est pas évident, parce que les mœurs, enfin les goûts ont changé, enfin vachement changé. Mais on oublie que on faisait des gâteaux très gras, très sucrés, auparavant extrêmement sucrés, avec de la meringue, de la crème au beurre, pour des histoires de conservation. Mm-hmm. Et on alcoolisait énormément aussi les biscuits. C'est-à-dire que moi, j'avais des recettes, c'était presque un litre de...
Grand Marnier, non, c'est ça ?
De Grand Marnier ou de Kirsch ou de...
Moi, je me souviens, en apprentissage, c'était exactement ça.
Mais en fait, on parfumait aussi les bûches beaucoup alcoolisées. C'était pour la conservation, pour stériliser, en fait. T'avais pas de développement bactériaux.
Ah ben, pas possible.
Pas de problème. Et on sucrait énormément les gâteaux. Pareil pour la conservation, c'était comme dans les pays chauds. En fait, quand tu épices beaucoup les plats, on a oublié de pourquoi on épice beaucoup, mais c'est pour la conservation. Donc, c'est vrai qu'on mangeait vachement plus sucré parce qu'il n'y avait pas de frigo. Et puis après, quand il a commencé à y avoir les frigos, bon, ça a un peu tué le côté de la bûche parce que, en fait, quand tu plantes tes dents dans un bout de beurre très froid à 6-7 degrés, pas très agréable.
Non.
Mais quand tu manges une bûche qui est restée dans la cuisine pendant quelques heures, le biscuit est bien imbibé. Et franchement, c'est super agréable, quoi. Et pour ça, moi, cet été, j'étais avec un de mes très bons amis pâtissiers. On est allé à manger, c'est drôle, parce qu'il me dit ouais, on va aller chercher un castel, et comme ça tu feras le, c'est un castel dans le sud, c'est un truc de meringue avec de la crème au beurre au praliné, et on a pris ce gâteau, hop, on l'a laissé toute l'après-midi dans la voiture, on a fait autre chose, on était sur Aix, et du coup on a mangé le gâteau le soir et je me suis régalé, je me suis dit, putain, c'est quand même incroyable comment c'est bon quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sucre moins. Moi, je vois, des fois, quand je regarde mes recettes, quand je suis en panne d'inspiration, je retourne dans mes recettes d'apprentissage et je regarde, je sais pas, on mettait 250 grammes de sucre dans un litre de crème pâtissière. Aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Ouais. Alors qu'on est à plus 180 grammes. Mais avant, c'était deux, on mettait, je sais pas, 10 jaunes au litre de les crèmes pâtissières. Elles étaient très différentes.
C'est vrai que les recettes traditionnelles ne sont plus du tout les recettes qu'on fait aujourd'hui.
Ouais, on change.
Mais pour les raisons que tu viens d'expliquer.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc la bûche roulée à la crème au beurre, donc c'est cette fameuse génoise.
Génoise, imbibée, crème au beurre. Et puis, donc on en fait encore. Nous, cette année, on est en train de bosser dessus au dernier moment. Je suis en train de bosser dessus avec Robin, mon chef pâtissier. Et là, on a commencé, et d'ailleurs, j'ai rappelé Jean-Claude Vergne, un de mes anciens chefs. Je lui ai dit, ah, tu te rappelles le truc qu'on faisait, on revient, on est en train de rebosser dessus, on devrait goûter ça cette semaine. Alors ça, c'est un truc qu'on fait à la rage, comme ça, parce qu'on a envie de le faire.
Pour le plaisir.
Voilà, pour le plaisir. Voilà.
Et c'est les fameuses bûches, en fait, qui ressemblent à une bûche de bois, en fait.
Une bûche de bois.
Les bûches traditionnelles, exactement. Et les bûches entremets, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est les bûches qu'on voit le plus aujourd'hui en pâtisserie en grande surface.
Bah oui, c'est celles qu'on voit le plus dans nos boutiques. C'est des techniques qui sont aussi différentes. C'est possible de les congeler. C'est beaucoup plus rationnel aussi sur les montages. On peut faire des choses qui sont un petit peu plus compliquées au niveau des textures, on peut faire des intrants, aujourd'hui on arrive à sortir, nous cette année, c'est la première fois qu'on le fait, on a sorti un moule en 3D avec, parce qu'on travaille avec donc Alexis sur une bûche en fait un peu différente. On a travaillé avec les nouvelles technologies, donc ça c'est ouf aujourd'hui de travailler avec de la 3D, c'est génial, donc et là on a sorti un truc cool. Donc, ça nous permet de faire aussi des montages qui sont très différents, quoi.
Ok. Et les bûches glacées, par définition, c'est à base de glace. Est-ce qu'on a une précision particulière à apporter sur les bûches glacées?
Non, c'était un peu... je sais pas ce que t'en penses, Christophe. C'est un peu l'omelette norvégienne, quoi.
Ouais, hein. C'est ça. À l'époque, ouais.
Chinoise, hein. Meringue. C'était à peu près... C'était ça, hein, ouais. Souvent recouvert
de meringue
parce qu'elle elle est molle hein, quand elle est au congèle.
Passer au chalumeau.
Flamber Grand Marnier et voilà quoi.
Pas mal non plus.
Pas mal non plus. Ouais.
Toi Benoît, t'as commencé à le dire, t'as commencé à nous parler des bûches que tu vas proposer cette année. Qu'est-ce que tu vas proposer en dehors des bûches à rouler à la crème au beurre comme tu viens de nous l'expliquer?
Voilà, on a une bûche qu'on va faire. On ne sait pas si on la sortira ou pas. On est vraiment dans l'expérience. Ouais. Ça nous arrive jamais, mais bon, on aime bien avoir un petit challenge chaque année. On a trois bûches en fait, une au chocolat, tout chocolat, avec un biscuit chocolat, une crème de chocolat, vraiment la toute chocolat, on a travaillé que le chocolat pour les... C'est important d'avoir une bûche au chocolat à la fin de l'année. On a une bûche marron cassis, j'adore le marron cassis, d'ailleurs Christophe il fait un panettone marron cassis.
Ouais, c'est une bonne, comment on appelle ça?
Une combinaison.
Une bonne combinaison.
Ouais, moi, exactement. C'est une combinaison qui me plaît. Enfin, on a fait une bûche.
Ouais,
je refais un peu la bûche qu'on faisait à la grande épicerie. Ça fait très longtemps. Et tous les ans, on en remet une couche différente. On change, mais
ça marche bien.
Ouais, ça marche très, très bien. On fait une bûche pralinée, complètement pralinée. Une dacquoise à noisette avec un crémeux au praliné, une mousse pralinée.
Régressif.
Ouais. Et puis, celle qu'on fait avec Alexis Taïeb, le graphiste, c'est une bûche pralinée coco avec une dacquoise aux noix de coco, un confit de citron, une crème, un praliné à la noix de coco et une crème à la vanille.
Ça donne envie. Je sais pas laquelle je pourrais choisir.
Ah ouais. Et après, elle est très noix de coco. J'adore la noix de coco. Je suis un dingue de noix de coco. J'adore ça.
Ça donne très envie. Si on se lance dans un mini cours de pâtisserie, là, tu nous as cité trois bûches différentes. Est-ce qu'on peut en prendre une d'elles pour que tu puisses nous expliquer les techniques, les ingrédients que tu utilises, de façon globale, pour avoir une idée de ça ressemble à quoi une bûche en fait?
Alors, Nous, toutes les bûches qu'on a, enfin, c'est monté un peu, ouais, donc comme un entremets, c'est une succession de couches en fait. Hein, c'est un biscuit. On commence par le biscuit avec un croustillant. Donc, on est toutes montées de même manière. Après, avec souvent ce qu'on met un insert ou un crémeux ou un confit de fruits à l'intérieur, rebiscuit, et puis après on finit par une crème un peu plus onctueuse, légère.
Donc les ingrédients par rapport à ce que tu viens de citer, en fait on retrouve beaucoup de la crème, du beurre, des œufs, du sucre, voilà. Des ingrédients de base.
Oui, des ingrédients de base.
Ouais, farine, etc. Ouais. Ok. Alors les questions qui vont suivre, généralement mes invités aiment pas trop, c'est pas leur préféré, mais c'est important qu'on essaie de faire des parallèles, peu importe le produit dont on parle, avec la grande distribution, pour comprendre les différences ou les similitudes d'ailleurs, parce qu'il peut y en avoir. Donc ma question à ce sujet, c'est quelle est la différence fondamentale qui existe entre les bûches que l'on trouve en supermarché et les bûches qu'on trouve chez un artisan pâtissier? Je sais pas si c'est en termes d'ingrédients, de savoir-faire, de technique.
Je pense que ce qui est très différent, c'est que, par exemple, nous on utilise la congélation, mais on met pas de poudre à perlimpinpin dedans.
D'accord. Ça tu peux nous expliquer ce que c'est la poudre à perlimpinpin?
C'est plein. Alors les additifs ne sont pas. Enfin, additifs, ça veut dire il y a des additifs naturels aussi. Hein, c'est pas toujours additif, c'est le fait d'ajouter quelque chose, mais il y a des additifs qui sont naturels, hein, des pectines, il y en a des qui sont naturels et d'autres. Hein. Mais après, nos produits qu'on met au congèle, on peut pas les mettre au congèle 6 mois.
Ouais.
Ça, c'est la grande, voilà, c'est la grande différence. Et puis, donc ça, c'est, on va mettre au congélateur pendant 1 mois, 2 mois, mais pas plus. Sinon, après, on sait que le produit va s'altérer, il va bouger. C'est un petit peu comme quand vous mettez un glaçon au congèle. Vous savez, le glaçon, il a tendance à grossir. En fait, quand vous congelez quelque chose, des crèmes ou des mousses, à un moment donné, ça travaille trop et ça se sépare. Ça c'est la première explication. Donc on peut pas congeler pendant trop longtemps. Il y a des produits qui se congèlent mieux que d'autres, mais en général les gâteaux, à un moment donné ça va plus. Et autre chose, il y a un truc aussi, c'est les quantités. Ça veut dire que je prends toujours l'exemple de la crème pâtissière. Quand vous faites, 5 litres de crème pâtissière ou 10 litres de crème pâtissière sur le coin du feu avec une quantité qui est faite à la main. Ça va. Si vous faites 150 litres de crème pâtissière dans une machine, vous allez vous prendre les mêmes ingrédients.
Ça donnera pas la même chose.
C'est pas la même chose, c'est pas le goût. Il y a toute la cuisson, il y a l'éclatement de l'amidon qui est pas pareil, ouais. La rapidité. C'est comme si vous saisissez des viandes en grosse quantité, c'est toujours pas pareil. Mais ça, c'est la même chose. Donc, gustativement, alors il y en a qui arrivent quand même pas trop mal, mais l'artisan, pour moi, sera toujours quand même... nous, on fait vachement attention à plein de choses en fabrication parce qu'on sait que dès lors où on mélange trop de matière, où on fait des grosses quantités, ça va plus, quoi.
Donc là, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'effectivement, l'industrie doit utiliser des ingrédients supplémentaires parce que la congélation est plus longue, parce que les quantités
donc
sont énormes.
Donc tu dois mettre là des poudres à perlimpinpin.
Voilà, exactement. Et le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, quand on produit en très grande quantité, on n'a pas le même résultat que quand c'est fait de façon artisanale.
Les mélanges ne sont pas aussi homogènes. Les pétrissages, ça doit être très différent aussi.
Complètement pareil. Hein,
c'est... plus rien à voir.
Donc même si c'est les mêmes ingrédients de base qui peuvent être de qualité, en fait, on n'aura pas le même résultat. C'est ce qui fait la différence de qualité entre les bûches.
C'est une des raisons.
Ma deuxième question à ce sujet va plutôt concerner les prix. Alors, je sais qu'au moment des fêtes, on a davantage tendance à se faire plaisir, mais il y a quand même une question de prix qui se pose, évidemment, même pour les bûches. Et j'ai regardé un peu pour ces desserts, la fourchette de prix est absolument énorme. On peut trouver... Je prends comme exemple une bûche pour 6 personnes. On peut en trouver à partir de 10 euros dans certaines enseignes de grande distribution. Et on peut en trouver à plus de 200 euros dans certaines pâtisseries. Alors, j'ai évidemment pris deux extrêmes qu'on peut difficilement comparer parce que certaines bûches sont presque des œuvres d'art dans les pâtisseries. Donc, on va reprendre des bûches à peu près similaires. Si je prends une bûche entremets au chocolat pour 6 personnes, par exemple, comment on arbitre et comment on choisit entre une bûche à 15-20 euros et une bûche à 50 euros, par exemple?
La bûche à 15-20 euros, c'est plus une bûche qui est peut-être dans l'agroalimentaire, en grande surface.
Donc là, elle est moins chère parce qu'il y a peut-être ce côté ingrédient utilisé en plus grande quantité. Donc
oui,
ouais, on fait des
ingrédients
des
peut-être
économies
de moins bonne qualité. Ils font peut-être, c'est des grandes séries. C'est en tout cas moi je sais pas faire ça. Mm-hmm. Ça c'est sûr. Je sais pas faire.
Une bûche à 15-20 euros de façon artisanale, c'est pas faisable.
Ah si, tu peux mettre dans un sac les œufs, voilà, la farine, ça. Le sucre et la boîte et la recette et les gens la font à la maison en fait.
Est-ce qu'il existe des mix, je sais pas moi, pour réduire les coûts, des mix pour faire des bûches vraiment moins chères que certaines boulangeries?
Après bon, tu peux trouver des astuces hein, pour faire des bûches hyper hyper simples et pas cher, mais est-ce que ça se vendrait vraiment? Est-ce qu'on vient chez moi pour avoir une bûche à 15 balles? Je crois pas.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un arbitrage. Qu'est-ce qu'on veut comme type de bûche?
Nous, on est à 40. Enfin, on est la 6-8 couverts, elle est à 45 euros. Et on fait qu'une seule taille. Après, on a des individuels. Et après, on a celle qu'on fait dite événementielle, celle qu'on fait en collab. Mm-hmm. Elle est à 50 euros.
OK.
Et on reste dans les prix, je trouve, raisonnables. Voilà.
Alors j'ai une autre question par rapport à ça, et c'est une question que j'ai abordée quand j'ai fait mon épisode sur le pain. En fait, on se rendait compte, enfin c'est ce que mon invité expliquait, Adriano, que acheter son pain en boulangerie, c'était pas forcément gage de qualité, puisque certaines boulangeries le produisent à peu près de la même façon que chez Carrefour par exemple. Est-ce que là, acheter sa bûche dans une pâtisserie, c'est forcément gage de qualité, et à l'inverse, l'acheter en grande surface, c'est forcément gage de moins bonne qualité?
Non, parce que aujourd'hui, alors il faut savoir quand même que tu as des grandes surfaces qui se sont remis un petit peu en selle pour faire des choses qui sont de bonne qualité par rapport à des fois des artisans qui vont acheter tout.
Oui.
Tu as certaines grandes surfaces qui font des trucs qui sont assez pointus, quoi, et au niveau du pain et au niveau de la pâtisserie. Voilà. Tu as certaines maisons. Tout le monde connaîtra qui fait du congelé, qui est quand même plutôt de très bonne qualité.
Ouais.
Bon, on va pas sortir de marque, pas loin de la Picardie, mais
pour pas donner trop d'informations.
Voilà, du côté de la Picardie, mais franchement, c'est vachement top ce qu'ils font, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive fréquemment de goûter par curiosité. Je me dis, ah ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. C'est propre.
Tu soulèves une autre question. Est-ce que certains pâtissiers qui ont un commerce, donc une pâtisserie, achètent la bûche toute faite chez des fournisseurs professionnels?
Alors, tu peux très bien en avoir qu'ils sous-traitent chez d'autres pâtissiers. Hein. Moi, ça m'a déjà arrivé de faire pour des gens, pas des pâtissiers boulangers, mais qui le font de façon propre, tu vois.
Oui, c'est pas forcément mal fait.
C'est sous-traité. Mais moi, ça m'est même arrivé de faire pour des marques ou des conseils sur des bûches. Et mon truc, je dis OK, mais si on le fait, on fait un truc propre. Quoi. Donc,
ouais,
c'est moi
sûr.
Qui décide de ce qu'il va y avoir dedans. Et voilà. Donc non, il y en a qui... Voilà. Après, tu as des choses vraiment épouvantables.
Et des choses très bonnes, voilà.
Et
comme
très
tous
bonnes.
Les produits,
ouais, comme tous les produits, ouais.
Mais merci beaucoup, Benoît. On va passer au panettone. On va donner la parole à Christophe. Alors Christophe, on a parlé de l'histoire du panettone, des traditions auxquelles il est associé tout à l'heure. Maintenant, je voudrais vraiment rentrer dans le vif du sujet et tout savoir sur ce dessert. Benoît, pareil, si tu as des questions à ajouter, n'hésite pas.
J'en ai plein.
Super. Je vais avoir un super co-animateur. Alors, première question. Je ne sais pas comment on doit appeler le panettone. Est-ce qu'on parle de brioche, de pain ou de gâteau?
Grande question. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est un débat. Alors, souvent, on me dit non, c'est un gâteau levé. Et d'autres qui disent mais non, mais c'est une hérésie pour les Italiens quand on dit brioche. Alors là, ils sortent de leur gond. Non, mais moi, je suis un peu... Tout me va, c'est du moment
toi,
que ça fait au levain. Moi, c'est un gâteau levé.
De toute façon, ça change pas le goût du panettone, c'était juste une petite information. Comme pour les bûches, les recettes de panettone peuvent être déclinées presque à l'infini. Est-ce que tu peux nous expliquer la recette traditionnelle du panettone?
Oui, alors la recette traditionnelle, c'est fait sur... avec, donc, la base, c'est le levain mère. Donc bon, le mien pour l'histoire, il vient d'Italie, chez Mauro Morandin, qui voilà, qui le tient de son père, Rolando.
Le vin qui est une vraie histoire.
Oui, après bon, je sais pas si c'est romancé ou pas, mais en tout cas bon bah il vient de là. Et puis moi, ça fait depuis plus de 5 ans que je l'ai, et au quotidien avec les équipes, avec mon chef, on en prend soin, parce que c'est vraiment la base de notre travail. Si on a plus de levain, bah ça va être compliqué de faire du panettone. Donc ouais, là-bas c'est le levain, et donc on va pour travailler la première journée, mais si on a un levain actif, seulement au bout de 12 heures quasiment, on va faire une première pâte qui va être fermentée et qui va devoir tripler 3 fois. Donc cette première pâte, il y a de l'eau, du sucre, des jaunes d'œufs, de la farine. Ça c'est une première fermentation. Et là, tout de suite, on va voir si ça se passe bien ou mal, quoi. Donc on a vraiment des temps, des pH, des choses comme ça un peu qui vont nous dire que si ça va trop vite ou pas assez vite. Et donc nous, on va se dire le levain, il va falloir le réguler comme ça, s'il est assez fort, s'il est trop fort. On a vraiment toutes ces choses-là à maîtriser. Et donc le lendemain, si on sent que cette pâte a de l'acidité, si elle a trop fermenté, etc., faudra malheureusement pas pétrir, quoi. Donc le deuxième jour, cette pâte qui a triplé, donc on va la repétrir pour faire la pâte finale. Et donc là, on va rajouter le reste des ingrédients jusqu'au fruit confit, tout ça. Et on va la mettre en moule, et puis ça va pousser encore à peu près entre 5 à 8 heures. Et on va les retourner en fin de cuisson pour pas qu'ils s'effondrent. Donc ça, c'est vraiment le panettone traditionnel, vraiment les étapes clés là où si on fait du panettone, on peut pas prendre des raccourcis, quoi.
En fait, il y a un vrai savoir boulanger, parce que tu le disais, ça se passe beaucoup à l'observation, au toucher, à l'odeur. Il faut que tu vérifies chacune des étapes.
Ah ouais, c'est complètement ça, ouais. On est hyper attentif. Là, moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'ai le panettone, mon chef vient de partir, il me dit, t'as tout ça, c'est là, tu le mets en chambre à la fin, t'as les panettones qui sont en train de pousser à cuire. Bon, je sais que ça fermente vite, là, généralement, donc je sais que, il y a quand même un stress qui est là, parce que, enfourner trop vite, ça devient vite catastrophique. Bon. Mm-hmm. Ça fait des champignons, enfourner trop tôt, ça va pas non plus. Donc, on est sur des périodes où on augmente les quantités. Et si on n'a pas la bonne réaction au bon moment de dire je stoppe la fermentation, on passe la chambre au froid, on la réenclenche plus tard, en fin de compte, on est mort, quoi.
Et les gestes que tu fais aujourd'hui seront pas forcément les mêmes la semaine prochaine, parce que justement il y a toute cette histoire de l'environnement.
C'est ça, l'environnement, les produits. Là, on a changé de miel, donc ça a été un peu compliqué. Il y a une chambre, une cave à vin où on met le levain, elle a complètement déconné. Du coup, le levain, pendant 3 jours, il était pas bien, et on a sorti des choses, mais on était un peu en stress quand même, parce que on a remis toutes les vérifications, toutes les sondes pour revérifier que les sondes tout fonctionne bien. Mais on est dans une veille, quand on travaille le levain, on est en permanence en train de tout regarder, on redescend 10 fois pour voir si on a bien mis les choses en chambre, à bonne température, etc., quoi. On n'a pas le droit à l'erreur.
La vraie particularité du panettone, finalement, c'est que c'est à base de levain, en fait, parce que moi, je trouve que les ingrédients, ça se rapproche quand même beaucoup d'une brioche, oui. Mais on fait jamais de brioche avec du levain, c'est toujours avec de la levure.
Oui, c'est ça. Puis alors, c'est une pâte assez extraordinaire, parce qu'en fin de compte, elle passe pas du tout au froid, quoi. La brioche, généralement, on la bloque au froid, etc. Puis la première fois que j'ai travaillé le panettone, on se beurre les mains, c'est une pâte qui est très souple, et donc c'est une approche qui est très différente pour un boulanger conventionnel, parce que du coup on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on renverse la pâte sur le marbre, qu'on se beurre les mains, mais c'est hyper agréable à travailler, en tout cas.
Donc là, tu nous as expliqué le procédé traditionnel pour faire du panettone. Le goût traditionnel du panettone, c'est quoi? Parce qu'on peut le décliner presque à l'infini.
Oui, alors c'est vraiment le panettone milanais, comme on l'entend. C'est alors, pour les Italiens, les puristes, c'est le panettone qui n'est pas glacé dessus. Quand nous, pour que ça soit plus joli, un peu plus gourmand, mais ce qu'on appelle une macaronade, c'est un mélange de blanc d'œuf, de sucre, de poudre d'amande, qui va venir craquer avec les amandes, qui va donner un peu cet aspect gourmand. Mais pour les puristes, les Italiens, ils aiment pas trop ça, quoi. Donc c'est tout lisse dessus, et on a des marqueurs, d'orange, de fermentation, et surtout pas d'acidité, quoi. Si on a un petit peu d'acidité, c'est quand même pas...
Donc le vrai panettone traditionnel, c'est à l'orange confit.
C'est orange confit et raisin sec.
Et raisin sec, ok, donc vraiment fruits confits. Ok. Toi, quel panettone tu proposes à tes clients pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que t'es sorti un peu de la tradition?
Oui, bah là, on a une collaboration avec Daman Frères qui arrive très, très, très vite, là. On a travaillé avec le rooibos de Noël sur un panettone un peu épicé avec un peu de gingembre, de la pomme confite, un peu d'épices, un peu de cranberry.
Le goût de Noël.
Ouais, très plein d'épices quoi. On est vraiment en quelque chose de réconfortant là sur ce panettone. Et puis on a des choses qu'on reprend aussi, comme dit Benoît tout à l'heure, on nous réclame beaucoup là, c'est le marron cassis vanille. Qui, pour le coup, on a mis quand même pas mal de temps à le mettre en place, parce que le marron, c'est quelque chose qui est pas simple à travailler, c'est assez neutre en goût. Donc, s'il y en a pas d'exhausteur comme l'alcool, le cassis ou la vanille, voilà, ça marche pas bien. Faut pas quelque chose de trop fort parce que ça l'emporte sur le marron. On avait fait pour le coup marron mandarine, mais la mandarine sur ce coup-là l'emportait un peu trop.
Ouais,
et c'était pas le bon combo. Donc, sur le marron cassis, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Puis on a celui qu'on garde toute l'année, là, c'est le panettone chocolat. Et pour le coup, on travaille
délicieux.
Avec...
Délicieux, j'ai eu la chance de goûter.
On travaille avec Nicolas Berger, qui fait un travail superbe. Voilà, puis on reprend aussi un panettone qu'on nous redemande beaucoup. Parce que pour les 100 ans de la grande épicerie de Paris, on avait fait un panettone un peu réconfortant, avec du gianduja et tout ça. Et les clients nous le réclament, donc on va le reproposer un peu à la carte.
Donc finalement, on peut faire du panettone n'importe quoi.
Tout. Et donc voilà, je pense que malheureusement souvent on sera en rupture de certaines choses parce que pour le coup nous on travaille en petite série et puis bah quand il y a et puis parfois la fournée sur 80 il y en aura peut-être que 70 qui vont passer, bah ça sera que 70 en vente quoi. Du coup on est vraiment sur un fil d'équilibre au jour le jour pour le panettone chez nous.
C'est vraiment pas une science exacte, je pense que ça rend la production difficile, surtout à cette période de l'année où comme tu disais il faut augmenter les quantités produites. C'est compliqué
ouais,
à gérer, non ?
Prendre les bonnes décisions au bon moment, quoi. Si on règle mal une chambre, si dans le stockage, faut vraiment. Il y a quand même un stress parce qu'on se dit, bon, si je prends la mauvaise décision, ça va être compliqué à un moment donné, ça va pas sortir, quoi. On risque de tout jeter. Donc, il n'y a pas trop le droit d'erreur sur les prises de décision quand on dit on augmente les quantités, quoi.
Alors qu'effectivement, au contraire de toi, Benoît, les bûches que vous avez faites, elles sont au congélateur. Tu le sais qu'elles sont réussies, vous allez les ressortir pour les fêtes.
Ouais, ça arrive qu'il y a aussi
des ratés.
Ah, mais
ouais.
Grave, on en a eu.
Au moment de la décongélation, surprise.
Bah, en fait, on fait. Oui, puis là, on fait pas tout en amont. Je veux dire, là, on finit les montages début décembre.
Ouais.
On fait tout série par série. Et puis, à chaque série, on a toujours rappel, Christophe, on a eu quelques surprises des fois à la grande épicerie. On en faisait beaucoup plus.
Des bûches qui pleurent.
On appelait ça les bûches qui pleurent.
C'est quoi?
C'était des fois quand on loupait les recettes et que les mélanges étaient mal faits, il y avait une séparation de l'eau. Vu qu'on mettait pas non plus à la grande épicerie de poudre à perlimpinpin,
ouais.
Des fois quand la bûche décongelait, on a la bûche qui pleure.
Ouais. On a utilisé beaucoup de ce ballon.
Beaucoup de mouchoirs, voilà, beaucoup de mouchoirs.
Est-ce que le panettone, effectivement, est-ce que toi, tu peux le congeler pour produire en amont ou pas du tout? Ça change complètement le produit?
Pour moi, c'est un peu une hérésie de le faire parce qu'on est sur un produit qui a une conservation naturelle avec le fait de travailler avec le levain. Donc, le fait de le congeler, ça veut dire que je vais utiliser de l'électricité pour rien, quoi. J'ai du stockage. Donc, moi, ça me dérange de travailler comme ça, même si je pouvais le faire. C'est quelque chose qui est pas dans mon ADN de dire je surgèle un produit pour consommer de l'électricité.
Ça te semble pas logique quoi.
Ça me semble complètement aberrant quoi. Mais bon, je sais qu'il y en a qui le font, mais pour d'autres raisons certainement. Mais
pratico-pratique. Tu parlais justement de la particularité du panettone qui se conserve bien tout seul grâce à l'utilisation du levain. Et c'est vrai que tu m'as expliqué quand on s'est vu l'autre jour qu'on peut le conserver jusqu'à 3 semaines sans l'ouvrir, donc 3 semaines après la production, c'est quand même beaucoup. Et puis après, encore une semaine après ouverture. Donc c'est vrai que c'est un produit qui se conserve relativement bien.
Oui, effectivement, nous, après les essais, les tests qu'on a fait, c'est ce qu'on préconise. On a des bons résultats encore 3 semaines après, on a encore du moelleux. Déjà, quand on le fabrique, on le laisse au moins maturer un petit peu pour que toutes les arômes se diffusent bien quelques jours. Et puis, une fois qu'il est ouvert, on préconise de le manger dans la semaine. en fermant bien le sachet. Après, c'est quand je suis allé en Italie, il y a des panettone qui se conservent jusqu'à 3 mois, 4 mois, là, par exemple, chez Morandin, qui, pour le coup, sont, je trouve, un petit peu différents, mais nous, on est sur plutôt des panettone frais. Donc, par rapport à ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on recommande.
Et qu'est-ce qui fait que ça se conserve aussi bien? C'est vraiment le levain?
Ouais, c'est la transformation des sucres, le levain qui va faire le travail.
Est-ce que l'emballage joue son rôle aussi? Parce que c'est quand même particulier, hein. Le gâteau, il est presque emballé comme un cadeau. Est-ce que même l'emballage papier qu'il y a autour joue son rôle dans la...
Oui, alors c'est pour ça que sur le plastique, on a essayé, tout le monde, on s'est concerté pour se dire, bon, c'est vrai que écologiquement, on aimerait bien que ça soit autre chose que du plastique. Mais en fin de compte, le plastique, ça fait le travail quand même de garder parfaitement le produit.
Ouais, évidemment. Bon, tu m'as mis l'eau à la bouche et en plus, j'ai terminé le panettone au chocolat que tu m'as donné, donc j'ai pas du tout testé les 3 semaines de conservation. Mais je l'ai trouvé très bon et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, il existe panettone et panettone. C'est pas du tout la même qualité d'un panettone à un autre. Et comme je le disais en introduction, c'est un dessert qui fait son grand retour ces dernières années. Donc on en trouve un peu partout, à la fois chez les boulangers et en grande surface. Comment on peut expliquer de telles différences de qualité entre un panettone qu'on trouve par exemple dans une grande surface et un panettone qu'on trouve chez un boulanger?
En fin de compte, déjà, ce qui est assez simple, c'est de regarder l'étiquette d'un panettone qu'on trouve en grande surface et où on a trouvé des monoglycérides, des émulsifiants, des conservateurs, des choses comme ça. Donc là, on va déjà se dire qu'on n'est pas sur la bonne voie quand on voit arôme et toutes ces choses-là. Et puis bon, chez nous, c'est la qualité des produits, quoi, beurre AOP, des bonnes matières premières, quoi, en travaillant avec des artisans et tout ça. Donc, on n'est pas sur le même produit, je dirais.
Mais en fait, comme tu nous l'expliquais, les étapes sont tellement précises et longues et importantes. Finalement, je pense que dans l'industrie, on peut pas reproduire ce qu'on fait dans une boulangerie artisanale.
Oui, c'est sûr que dans l'industrie, je pense que ça fait au moins 6 mois qui sont faits les panettone, quoi.
Ah oui, donc là, on est vraiment sur une très longue conservation. C'est ce qui explique la différence de texture, j'imagine, parce que le tien, il était vraiment moelleux, la mie était filante, alors que généralement, quand on l'achète en grande surface, c'est quand même très sec.
Oui, c'est ça. C'est que, les grandes surfaces, ils achètent vraiment en gros, quoi. C'est vraiment un travail vraiment différent par rapport à nous, quoi. Il y a un travail d'acheteur, d'acheter au moins cher, quoi, pour produire finalement au moins cher. Nous, on n'a pas de négociation avec nos fournisseurs. On leur dit pas, faites-moi une remise parce que j'achète. C'est vraiment une démarche vraiment différente.
C'est ce qui fait la différence de prix, on va y revenir après. Et une dernière question par rapport à ça, tu m'expliquais la dernière fois aussi qu'il existe des mix en poudre pour faire du panettone que certains boulangers peuvent utiliser.
Oui, effectivement, oui, on a tout ce qui est kit maintenant qu'on met à disposition pour les pâtissiers qui veulent faire ça. Donc, on te vend les moules, les broches, quoi, tout ce qui le mode d'emploi qui va avec. Donc, ça va, t'as des mix qui sont... pas mal, on va dire, assez correct, t'as des mix qui sont vraiment...
Mais ça reste quand même très éloigné en termes d'ingrédients de ce qu'on peut retrouver chez toi, par exemple.
Oui, non, mais c'est pas le... Quoi, pour moi, on fait pas vraiment le même travail. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont tendance à se développer, quoi. Quoique c'est courant, on va dire. Le vrai panettone est vraiment en bonne voie. Je me réjouis parce que... je vois de plus en plus de collègues qui m'appellent, qui me demandent du levain, qui veulent des renseignements, etc. Quoi, Tomate et Fruits Chambellan, il a fait un livre sur le panettone qui est magnifique et beaucoup de gens se lancent avec. Et on avait beaucoup de retard par rapport à l'Espagne parce que moi, j'étais à Barcelone et il y a beaucoup de panettone artisanal là-bas depuis au moins quasiment 15-20 ans.
Ah oui, effectivement.
Et nous, on avait quand même vachement de retard, quoi. En France, ça fait depuis ces dernières années qu'on s'y intéresse vraiment. Mais on n'avait pas trop la notion de se dire, le pain de mie, le croissant, c'est du croissant industriel. Est-ce que c'est pareil que le croissant au supermarché, quoi? Et sur le panettone, on était sur le fait de se dire, bon, de toute façon, on achète quelque chose qui a un beau packaging. Et puis, de toute façon, on faisait pas trop le rapprochement, quoi.
Mais c'est ce qui fait qu'il y a des gens, moi, je trouve, qui disent, ah non, moi, j'aime pas le panettone parce que c'est quand même vu comme quelque chose de très sec. Quand on a l'habitude de lâcher dans une grande surface, on est quand même loin du panettone artisanal, enfin en tout cas celui que j'ai goûté dans ta boutique.
Oui, nous déjà ce qu'on fait en boutique, c'est que les vendeuses, tout ça, dès qu'on a les panettone, tous les clients qui rentrent chez nous, ils peuvent goûter le panettone. Déjà, on force personne à l'achat, et donc on veut faire découvrir vraiment aux gens avant qu'ils, voilà, parce que c'est un certain prix, donc soit ils peuvent le découvrir à la part, on leur fait goûter, ou voilà, c'est un produit, c'est un beau produit, bon, qui a un certain prix, c'est sûr.
Mais justement, Benoît, toi, tu disais que tu en faisais aussi du panettone, c'est un produit qui se vend bien, que les consommateurs demandent.
On n'en fait pas autant que Christophe et de façon aussi ancestrale que lui. Nous, on utilise, c'est vrai, on va sur la manière plus simple. On a un levain, on fait sur 3 jours et on en prend un levain déshydraté et après on refait un levain et on l'utilise sur 3 jours.
Parce que l'utilisation du levain, c'est compliqué, ça demande vraiment beaucoup de temps.
C'est le plus, vraiment, le côté, enfin, je pense que c'est le plus difficile à dompter. Pourtant, on travaille que sur des levains, sur les pains, on fait des fermentations longues de partout et on a choisi un peu de simplicité. C'est pas une, enfin, c'est quand même une, on doit en faire peut-être 600 sur la fin de l'année quand même. À peu près. Alors, on n'en fait pas autant que Christophe, mais...
Ça fait longtemps que tu en fais ?
Oui, ça fait 10 années, ouais.
Ok.
Ouais.
Bon, tu aides la France à rattraper son retard sur l'Espagne et l'Italie.
À mon petit niveau, quoi.
Et justement, Christophe, tu parlais du prix. Et donc, comme pour les bûches, il y a un sujet important sur le prix du panettone. J'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte qu'en grande surface, on peut trouver des panettones d'un kilo à 5 euros, alors que dans des boulangeries, ils peuvent dépasser les 50 euros. Comment on explique cette différence de prix ? Est-ce que le sujet, c'est vraiment ce travail artisanal, les ingrédients utilisés, ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut expliquer ça ?
Ouais, non, c'est vraiment le prix des produits, quoi, qu'on utilise, et puis les quantités que font les grandes surfaces, quoi. Après, je pense qu'on est vraiment très éloigné de ce qu'on peut trouver en grande surface.
Donc là, sur le panettone, finalement, il y a pas vraiment de sujet. Si on veut un bon panettone, il faut aller chez un boulanger qui prend le temps de le faire, et on aura du mal à trouver un panettone qui soit bon en grande surface.
Grande surface, ça va être compliqué, sinon il faut le commander en Italie chez des grands maîtres italiens, etc. Mais...
Bon, quitte à choisir la facilité, autant aller chez le boulanger.
oui, non, mais après là, il y a plein de collègues qui font du super boulot maintenant.
Oui, en boulangerie.
En boulangerie.
Oui, c'est ça. Mais en grande surface, voilà, un panettone qui coûte 5 euros, on peut partir
non,
du principe
Non, je
ne
sais pas ce qu'il y a dedans.
Ouais, voilà. Tu vois Benoît qui fait la grimace.
Il y a pas les trucs frais.
Quoi, autant moi je peux te citer les gens voilà qui je travaille, mais si tu demandes à voilà si on peut faire le rapprochement, il faudrait demander à l'industriel à côté qui.
Mais même moi je trouve sincèrement en termes de goût et en termes de texture ça a rien à voir. Enfin j'ai trouvé la différence entre celui que tu m'as donné que j'ai goûté et un autre que j'avais acheté il y a quelques temps. C'est sec. Enfin ça ressemble. C'est pas la même texture, on n'est pas sur une brioche, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça n'a rien à voir.
Ouais, non, mais moi, ça, en fin de compte, ça a été ma révélation, parce que j'avais fait... quand j'ai découvert le panettone, j'étais en stage chez Valrhona avec Rolando Morandin, c'était il y a à peu près 7 ans, et c'était la seule personne qui faisait du panettone en France, et c'était Frédéric Beau à l'époque qui a initié vraiment le panettone.
D'accord.
Il y a deux personnes, hein, franchement, il y a 10 ans, on va dire, si on regarde vraiment en arrière, il y a Pierre Hermé qui faisait du panettone, et Frédéric Beau qui a initié le panettone en formation. Et moi, pour moi, quand j'ai fait ce stage-là, quand j'ai goûté le panettone avec Rolando, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette dinguerie, quoi.
Rien à voir avec ce que tu connaissais.
Et puis là, je me dis, moi, je comprends qu'on n'aime pas le panettone parce que...
Mais oui, c'est ça. Les gens disent qu'ils n'aiment pas, mais en fait, je pense qu'ils n'ont jamais goûté un vrai panettone fait de façon traditionnelle.
Ouais, puis bon, en mettant des bonnes choses, il y a plein de combinaisons à faire, quoi. C'est vrai qu'on connaît le panettone milanais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Mais ça, c'est pas évident parce que dans la fermentation, dès qu'on change quelque chose, il y a tout qui change derrière. Mais il y a vraiment de belles choses à faire sur le panettone.
Bon, en fait, si on résume un petit peu tout ça, si on veut un bon panettone, il faut quand même mettre le prix parce que les ingrédients de qualité font la différence, le travail du boulanger fait la différence et tout ça, ça a un coût.
C'est ça.
Ok. On va passer à la partie consommation et je vais revenir vers toi, Benoît, pour les bûches. La consommation de bûches, elle est vraiment spécifique à Noël, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que au réveillon du 31, on en consomme aussi beaucoup ou est-ce que c'est vraiment axé sur Noël ?
C'est vraiment axé sur Noël. Bon, il y a des gens, des fois, qui t'en recommandent, qui sont régalés tout le temps. Nous, après, nous, l'objectif, c'est quand même qu'on ait tout vendu, bien évidemment, à Noël. Ouais. Hein.
Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les tendances autour des bûches ? Qu'est-ce que les consommateurs préfèrent ? Tu nous disais, par exemple, c'est hyper important d'avoir une bûche au chocolat.
Bah, il faut avoir une bûche au chocolat. Alors... Franchement, au moins tout le temps, on a une bûche au chocolat, une bûche avec une connotation fruitée et pralinée. Après, cette année, tu vois, on refait la marron cassis. je sais que l'année prochaine, on ne la refera pas parce qu'on dira on a manqué de café. Bah, vous n'avez pas de café, donc on a forcément manqué de café. Et puis, voilà, tous les ans, on essaye de changer. Nous, je vois, tous les ans, on s'amuse bien parce qu'à chaque fois, on se critique et on se dit, tiens, le praliné, on pourrait changer ça. Et hop, on met un cran, on met un cran. Des fois, on fait des combinaisons. Cette année, on a décidé de la faire tout chocolat, par exemple. Et c'est vrai que des fois, on peut faire un peu des combinaisons avec le chocolat. Par exemple, il y a un truc que j'adore, moi, c'est le chocolat orange.
Ok, je déteste ça, moi. Mais...
je suis d'accord, il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Et souvent, quand on le fait, ça ne marche pas. Mais tous les ans, j'ai vu que chez moi, le chef, du bon, on en fait quand même.
Allons-y.
Cette année, tout le monde m'a quand même dit, bon, Benoît, tu es vraiment sûr de voir ta bûche je sais pas, il y a chocolat orange, j'adore, voilà.
Non, mais il faut tester. Je pense que si c'est bien fait, il n'y a pas de raison.
Ouais, mais c'est quand même réducteur.
Mais donc, tu fais trois parfums de bûche.
Quatre parfums.
Ça doit être dur de choisir, finalement, quand même.
Après, ce qui est difficile...
Parce que c'est infini, en fait.
Oui, enfin, après, c'est ça. Hein, c'est l'année dernière, il y a une que j'ai adorée qu'on a fait pendant... L'année dernière, j'avais piqué l'idée à Jérémy Derval de chez Daloyo. C'était la bûche avocat passion. Tu l'avais goûté?
Ah ouais, non.
Oh, elle était dingue.
C'est vrai?
C'était dingue ici, ouais. Et noix de coco, forcément, je trouvais que c'est une des bûches que j'ai mangées ces dernières années qui valait le plus. Donc un jour, je l'ai appelé, je me dis, t'avais fait comment ton truc à l'avocat?
Et ça se vend bien, ça? Parce que je me dis, moi, j'achète une bûche pour Noël, j'ai pas envie de me planter, quoi.
Ouais, mais en fait, justement, ouais, c'est vrai que des fois, tu fais des trucs, et puis là, l'avocat, ça avait été un peu parce que, en fait, c'est un côté un peu réducteur, tu vois, avocat.
Ça peut être super bon, mais comme on connaît pas.
Comme on connaît pas, les gens, ils veulent quand même des trucs qui soient un peu traditionnels, quoi. Je prends dans le panettone, je sais pas toi, Christophe, mais tu fais pas non plus des trucs trop... trop compliqué. Enfin,
non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où parfois c'est un peu surprenant, quoi. Mais
t'as un exemple de saveur que t'as fait un peu surprenant?
Ouais, on a travaillé sur le piment, piment au chocolat, quoi, c'est pas. Mais pour le coup, c'était.
On sentait vraiment le piment. C'était un petit peu relevé.
Ouais, c'était relevé, mais alors du coup, la première fois, c'était pas assez relevé, la deuxième fois un peu trop, après on a trouvé le bon équilibre, mais c'était
pas
évident. Puis il y avait le fruit de la passion aussi, mais parce que je voulais faire un truc fruit de la passion chocolat, chocolat lait, puis je me suis dit mais comment je peux faire, etc. Puis j'avais trouvé le coup des physalis séchés.
Je sais pas ce que c'est.
C'est les petites pommes d'amour, en fin de compte, je sais pas si tu vois
la cage. Ah oui, sur les gâteaux souvent.
Ouais, c'est ça.
Orange,
et qu'on trouve pas super bon.
Oui,
et du coup, en déshydraté, en fin de compte, quand ils sont séchés, ça, c'est acidulé, c'est hyper intéressant.
Et ouais, qui est de la variété de la, en fait, qui est de la variété de la tomate.
La tomate,
et qui a goût de tomate normalement et qui est vraiment délicieux quand c'est bien fait.
Ah, j'ai toujours détesté ça aussi
mais
sur les gâteaux.
Mais parce que sur les gâteaux, c'est vraiment dégueulasse.
Ouais, sur les gâteaux, mais pour le coup...
En saison, c'est bon, quoi.
Là, je les avais réhydratés dans le jus de passion, comme les raisins. Et en fin de compte, c'était... j'avais fait un sirop vanille passion, j'ai réhydraté les physalis dedans. Puis,
ça donne envie.
Ça a super bien marché.
Et Benoît, est-ce que tu as l'impression que les consommateurs ont plutôt tendance à acheter leur bûche ou à la faire eux-mêmes?
Non, il y a ce côté quand même pour plein de gens, c'est un peu c'est la fête en famille. La bûche qu'on vient chercher chez nous, enfin ça reste quand même quelque chose de un acte du réveillon de Noël, quoi. Qui ramène la bûche, quoi.
Ouais.
Où ils veulent la chercher, quoi.
C'est presque un cadeau, hein.
Ouais, c'est moi, c'est le principe, enfin, de ce qu'on disait au début, quoi. C'était vraiment ce côté cérémonial, en fait, qui restait là et qui est cool, qui est super.
Et Benoît, pour les bûches qui sont achetées, est-ce que tu as une idée de la proportion entre celles qui sont achetées en grande surface et celles qui sont achetées chez les pâtissiers?
Aucune idée.
Aucune idée.
Aucune idée.
Je sais pas, j'arrive pas à savoir non plus, Ouais.
Bah, j'imagine que forcément, dans les grandes surfaces, il doit y en avoir quand même beaucoup. Enfin, je sais pas. Pour beaucoup de gens qui ont peut-être pas beaucoup de moyens.
Oui, c'est peut-être une question de prix, ouais.
Il y a une question de prix. Et après, t'as des gens qui ont beaucoup de moyens et qui vont s'en foutre total de savoir ce qu'il y a dans la bûche, et puis d'autres qui ont peu de moyens qui vont vraiment se faire plaisir de...
Oui, parce qu'il y a le sujet aussi au moment des fêtes où on se fait un peu plus plaisir que d'habitude,
oui,
on est prêt à mettre
sûr.
Un peu plus cher.
Ouais.
Bon, ce serait une question à soulever. Christophe, en ce qui concerne le panettone, donc toi, tu as ouvert une boulangerie qui propose ce produit toute l'année, mais est-ce que c'est un produit qui arrive vraiment à trouver sa place tout au long de l'année ou vraiment au moment de Noël? Bon, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est ta première année là, donc, mais est-ce que tu ressens quand même un pic là pendant les fêtes?
Oui, alors pendant les fêtes, oui, de toute façon, on sait qu'on va pas arriver à suivre parce que voilà, on n'a pas la structure qu'il faut pour contenter tout le monde parce qu'on fait de l'expédition aussi. Et tout ça, mais en fin de compte, je me suis aperçu finalement quand même que sur le reste de l'année, c'était un produit qui avait sa place et les gens consommaient quand même du panettone. La question que je me suis posée, moi, c'est quand je suis parti en Italie, c'est surtout qu'en plein mois de, je sais plus, c'était en septembre, etc. Et ils m'expliquaient, non, nous, on fait du panettone toute l'année, mais c'est pour l'expédition, quoi, parce que nous, il y a hors de question de manger du panettone hors
fête. Ah ouais, les Italiens en mangent pas du tout le restant de l'année.
Ils mangent pas du tout le reste de l'année. Et alors je me suis dit, mais ça part où ces panettones?
Ouais. Et finalement, donc c'est expédié dans des pays comme la France.
Ouais, comme la France. Je me suis dit, la France est demandeur. Puis j'avais l'exemple aussi de l'Espagne, où c'était quand même des consommateurs de panettones. Bon, bien sûr, au moment des fêtes, mais au long de l'année, il y a quand même une consommation du panettone. Puis bon, surtout, il y a d'autres choses à faire avec le levain de panettone que du panettone.
Comme quoi?
Il y a le Pandoro, mais il y a plein de gâteaux qu'on... Voilà, je dis pas tout, mais il y a plein d'autres choses à faire.
Que tu vas tester
qu'on va travailler. Puis bon, il y a le panettone salé qui est hyper intéressant aussi.
Mais justement, je voulais te demander, comme j'ai demandé à Benoît, les tendances autour du panettone, les saveurs que les clients préfèrent. Est-ce que c'est plutôt traditionnel ou est-ce que quand tu fais des tests, comme tu nous le disais tout à l'heure, chocolat-piment par exemple, est-ce que ça plaît aux consommateurs?
Ouais, en fin de compte, les consommateurs, ils sont du moment qu'on leur fait goûter, qu'on leur explique, qu'on prend le temps de, ils aiment être surpris des fois, quoi. Je pense peut-être pas tout le monde, mais en tout cas la clientèle qu'on a, nous, ça marche plutôt bien, quoi. Ils sont plutôt à même de dire bah, qu'est-ce que c'est le prochain truc.
C'est chouette, ça te permet de tester plein de saveurs
différentes. Ouais, c'est ça.
Je pense que j'ai la réponse à ma question. En ce qui concerne les achats du panettone, on l'achète encore davantage en grande surface que chez le boulanger, encore aujourd'hui, j'imagine.
Oui, puis je pense qu'on n'en trouve pas non plus à chaque coin de rue, non plus dans toutes les boulangeries non plus.
Exact. Mais en même temps, en grande surface, on n'en trouve qu'au moment des fêtes aussi. Donc c'est vraiment encore un produit très saisonnier en France, j'ai l'impression.
Oui, ça reste saisonnier, oui, effectivement.
On arrive à la toute dernière partie sur la conservation. On va revenir aux bûches. Benoît, combien de temps en avance on peut acheter une bûche pour qu'elle soit parfaite le jour de Noël?
Faut pas l'acheter trop longtemps en avance, quoi.
C'est quoi, pas trop longtemps? Quelques jours?
Ouais, 2 jours max, okay. Quoi.
Et la meilleure façon de la conserver, c'est au frais? Est-ce qu'il faut
frais,
la sortir un peu avant de la déguster?
Surtout très au frais et... très au frais et puis pas qu'elle que tu vas la chercher chez le pâtissier ou le boulanger qu'elle prenne un coup de chaud et puis que tu la
remettes
au frais
dans la voiture,
ouais, non, tu vas la chercher, tu la mets tout de suite au frigo, quoi.
Okay.
Et elle sera pas optimale. Le mieux c'est vraiment de l'acheter la veille ou le jour même, bien évidemment.
Et pour optimiser la dégustation, est-ce qu'on la sort un peu avant? Est-ce qu'elle doit être à température ambiante, fraîche?
Oui, c'est préférable. De toute façon, toutes les dégustations, c'est toujours préférable de pas manger trop froid, quoi.
Okay.
Donc tu la bon après la bûche, quand tu la coupes à l'assiette, le temps que tu la coupes, tu la mets sur la table, tu la coupes dans l'assiette, ça te fait des petites parts, ça revient assez vite en température et en mais c'est toujours mieux. Ouais.
Ok. Pour le panettone, on l'a dit, ça se conserve très bien, mais l'idéal c'est quand même de l'acheter quand il vient juste d'être produit, j'imagine.
Oui, pas très loin. Et puis c'est vrai que là il va faire froid, donc nous on le remarque en boutique. Hein. Par exemple, le panettone chocolat, c'est quand même mieux de le mettre près d'une source de chaleur. Parce que bah, dehors, il va faire moins 10, machin. On a le beurre de cacao quand même qui rigidifie un peu. Mm-hmm. Donc, pour la dégustation, c'est quand même mieux de le mettre près du radiateur.
Ok, même plus que température ambiante, si on peut l'approcher d'une source de
chaleur,
bah,
ça dépend
bien.
Si on vient de l'acheter. S'il est déjà resté bien dans l'appartement, ça va le faire. Mais si on vient de le ramener de dehors et qu'il est très froid, c'est pas terrible.
Ok, bah merci pour ces conseils. On va passer à la conclusion de ce podcast. J'aimerais bien qu'on fasse un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit. Donc Benoît, si on devait retenir 3 ou 4 conseils pour bien choisir sa bûche, la déguster dans les règles de l'art, ce serait quoi selon toi?
Bah déjà, j'encourage tout le monde à bien évidemment aller dans les petits commerces de quartier, le pâtissier, le boulanger ou des chocolatiers font des bûches, et puis d'y aller de façon acheter. On mange toujours trop à Noël. acheter des bûches plutôt pâtissières, des bûches boulangères et chez les artisans. Ça, c'est le voilà, faites-vous vraiment plaisir.
Plaisir, ouais, c'est le maître mot. Et pour le panettone, Christophe, même question, est-ce que tu as 3 ou 4 conseils à donner à nos auditeurs pour conclure un peu tout ça?
Bah, faites-vous plaisir également. nous, je sais qu'on, voilà, on se fait plaisir dans les parfums avec les gens avec qui on travaille, voilà, que ce soit Plaque, Nicolas Berger, etc. On met beaucoup d'attention avec les personnes avec nos fournisseurs. Donc on est vraiment aller chez les artisans, quoi, parce que c'est un des plus beaux produits artisanaux qu'on puisse
faire. De toute façon, pour la bûche ou le panettone, il y a un enjeu qualité et vraisemblablement il vaut mieux aller chez un artisan qui travaille
en tout cas nous on mettra pas nos panettones à moins 50% comme les grandes surfaces au mois de janvier, quoi.
Et nous non plus dans les bûches.
Mais il n'y en aura plus.
En plus.
Est-ce qu'on a abordé tous les sujets selon vous? Est-ce que vous auriez aimé ajouter quelque chose?
Non, pour moi, tout est dit.
Tout est dit. Alors, j'ai la toute dernière question du podcast. Est-ce que vous avez une recommandation d'un autre produit auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe?
Évidemment, la galette.
La galette. Mais j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, il y aura un sujet sur la galette.
Ah oui, il y a tellement de choses à dire.
C'est vrai. La galette pour Benoît et pour toi, Christophe, ce serait quoi?
Question piège, il y a plein de choses, mais moi le miel m'intrigue.
Ouais, il y a pas mal de choses à dire sur le miel aussi. Merci beaucoup à tous les deux, j'ai passé un super moment. On a bien mangé aussi pendant l'enregistrement.
Ouais, c'était
merci.
Avec des cannelés qui sortaient du four.
Merci Pauline,
merci
Benoît.
Pauline.
Merci Christophe,
merci
Benoît. À bientôt.
À bientôt.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.